Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Dominus vobiscum.
Le Seigneur soit avec vous.
Jauna suekin.
El Señor esté con vosotros.
The Lord be with you.
Présentation de la nouvelle traduction française du missel romain. Monseigneur Marc Ayé.
Donc nous avons prononcé cette première consécration, qui est la consécration du pain, qui devient à cet instant même, par les paroles du prêtre, qui les prononce in persona Christi capitis, selon l'expression latine traditionnelle, c'est-à-dire dans la personne du Christ, tête de l'Église, qui va répandre sa grâce, qu'on appelle la grâce capitale, caput, c'est la tête, donc la grâce de la tête, qui est dans la tête, qui est dans lui qui est plein de grâce et de vérité, comme dit saint Jean dans son prologue, et qui va se répandre sur l'ensemble de ceux qui communient par la foi et par l'amour, qui communient sacramentellement au corps du Christ, et qui deviennent le corps du Christ. Voilà. Et donc c'est très très émouvant pour le prêtre de savoir qu'à ce moment précis, même s'il est un homme limité, même s'il est un homme fragile, même s'il est un pécheur, comme tous les hommes, eh bien, il est à ce moment précis l'instrument, la cause instrumentale de ce grand mystère de l'Eucharistie. Il est l'instrument du Christ. Il n'agit pas évidemment par sa vertu propre, car ce qui va s'accomplir là, la transformation du pain dans le corps du Christ, du vin dans le sang du Christ, l'offrande du sacrifice, qui est ainsi rendue présent par cette double consécration, eh bien, excède les capacités de la nature humaine. Il faut qu'il ait été configuré au Christ par un don particulier de grâce, qui est celui du sacrement de l'ordre, pour pouvoir prononcer ces paroles avec la même efficacité que le Christ. Donc c'est le Christ seul qui peut rendre efficace la consécration. C'est le Christ seul qui peut, à travers le prêtre, faire que ce pain et ce vin deviennent son corps et son sang. Et c'est pourquoi l'on parle à la première personne. Ceci est mon corps. C'est le prêtre qui prête à Jésus sa voix, sa personne, ses mains, pour que le Christ puisse se rendre présent au milieu de nous. De même, après le repas, donc on suit la chronologie du récit de l'institution par les évangélistes, en particulier Luc, qui est peut-être le plus précis pour la chronologie, car vous savez que cette double consécration du pain et du vin, qui est absolument inédite au cours d'un repas pascal, car nous sommes au cours du repas de la Pâque des Juifs, et à ce moment-là, on offrait des coupes de pain et de vin, comme ça se fait toujours. Si vous avez participé un jour à un repas qui précède le sabbat avec des juifs observants, vous voyez qu'ils le font toujours. Mais au cours de ce repas, Jésus a surimposé sa propre Pâque, celle de sa mort et de sa résurrection, à travers le signe de ce pain et ce vin transformés en son corps livré et en son sang versé, donc en référence immédiate évidemment, avec ce qui va s'accomplir chronologiquement seulement le lendemain, le vendredi saint, lorsque le Seigneur va effectivement offrir ce sacrifice sanglant par la séparation du corps et du sang, comme il se doit dans le culte du peuple d'Israël. Donc de même après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, et là ce sont les paroles de Jésus, à nouveau qui sont dans les lèvres du prêtre et qui se rend compte à ce moment-là que ses mains deviennent les mains très saintes du Christ. Donc c'est un moment très, très crucial aussi pour le prêtre qui ne peut pas accomplir ça sans être indemne. Il se dit qu'il n'est pas toujours cohérent avec ses paroles. Il sait que ses mains ne sont pas toujours aussi pures que celles du Christ. C'est pourquoi il se prépare à célébrer la messe avec cohérence en examinant sa conscience. Et le prêtre dit dans la personne du Christ, où le Christ dit lui-même à travers le prêtre, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et c'est magnifique, On voit bien que le Christ Jésus lui-même a donné à ce rite et par conséquent à ce qu'il signifie de manière efficace à sa mort sur la croix, eh bien, une signification bien précise qui est celle d'un sacrifice d'expiation pour les péchés de la multitude. Ce sang qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. C'est par cette parole si importante que le Christ Jésus dit à ses apôtres, de manière très spécifique, car ce sont ses apôtres qui sont les témoins privilégiés de cet événement, qui sont autour de la table à célébrer la Pâque des Juifs, et donc à entrer dans la Pâque du Christ. Eh bien, c'est à eux que Jésus fait ce commandement. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il faut bien comprendre que mémoire ici ne veut pas dire simplement un simple souvenir, l'évocation psychologique d'un moment passé, mais le mot est très fort dans la compréhension évidemment des Juifs, de l'histoire du salut, du peuple hébreu. En mémoire, ça veut dire, eh bien, vous ferez cela comme mon mémorial. Et chez les Juifs, le mémorial, c'est non seulement faire mémoire d'un événement passé, et qui est en effet révolu dans le temps, mais en demander l'actualisation pour aujourd'hui. Donc c'est beaucoup plus fort qu'un simple souvenir du passé que l'on évoque entre amis ou en famille. C'est beaucoup plus fort. Ça veut dire que le Seigneur demande à ses apôtres de renouveler, et il en fait un commandement, vous ferez, faites cela en mémoire de moi, de renouveler ce rite, et en renouvelant ce rite, de rendre présent le mystère de sa mort et de sa résurrection. Et par ce « vous ferez cela en mémoire de moi », l'Église a toujours compris que Jésus avait institué les prêtres et leur avait donné le pouvoir de refaire de manière aussi efficace que lui ce rite de l'Eucharistie.